ce matin, après quoi on lira notre texte et on passera dans un temps d'explication. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que ce matin nous nous sommes réveillés, parce que tu nous as encore accordé le souffle de vie. Et si tel est le cas, Seigneur, c'est parce que tu as des bénédictions à répandre sur nous et parce que nous te sommes encore utiles pour l'avancement de ton royaume. Alors, Seigneur, nous te demandons, oui, enseigne-nous. Oui, nourris-nous par ta parole. Change-nous, transforme-nous. Façonne-nous, Seigneur, afin que nous soyons les hommes et les femmes que tu désires que nous soyons et que nous puissions être utiles entre tes mains, que nous soyons des disciples, des serviteurs au pied du roi qui font avancer sa cause et qui sont un sujet de gloire, d'honneur et de joie pour toi. De surcroît à cela, Seigneur, nous te remercions parce que nous savons qu'aujourd'hui tu as encore des bénédictions en réserve pour nous. Ta parole nous dit que tes bénédictions ne sont pas à leur terme et qu'elles se renouvellent en fait à tous les matins pour chacun d'entre nous. Et nous te disons merci. Merci pour tout ce que nous connaissons de cette journée, mais pour tous ceux qui nous est encore inconnus. Nous te rendons grâce pour les victoires, pour les délivrances, pour la provision que tu nous accorderas, mais surtout, Seigneur, pour le soutien et la direction, Seigneur, que tu accordes à notre vie. Donc ce matin, Seigneur, bénis ce court temps que nous avons devant nous afin d'étudier ta parole. Permets-nous, Seigneur, de la recevoir favorablement. Permets-nous, Seigneur, de nous l'approprier et de la planter, Seigneur, profondément dans nos cœurs et dans nos pensées, afin, Seigneur, qu'elle puisse croître et qu'elle puisse porter un fruit qui te sera utile et qui te sera agréable jusque dans l'éternité. Alors d'avance, merci. Et encore une fois, Seigneur, que toute la gloire et que tout l'honneur te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors je relis le texte que nous avons pour ce matin. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, je répète, c'est dans Ésaïe 52, le verset 7, pour ceux qui viendraient de se joindre à nous strictement, simplement. Donc, Ésaïe 52, le verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Je répète la dernière partie. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Alors, toute cette semaine, on a eu l'occasion de parler de ce serviteur dont Dieu dit que les pieds sont beaux. Beaux parce que appropriés, beaux parce que adéquats, beaux parce que solides dans l'œuvre et dans le travail qu'ils ont à accomplir, qui est de transporter ce prophète jusqu'au haut de la montagne, et qu'il puisse agir comme porte-voix, comme héros, comme lanceur d'oracle, de proclamation pour l'Éternel, son Dieu. Et aujourd'hui, on nous dit que ses pieds sont beaux, lui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Alors, quatre mots importants aujourd'hui, le mot dire, le verbe dire, le nom propre Sion, puis Dieu, et enfin le verbe régner. Et chacun de ces mots-là, quand on va les décortiquer, on va pouvoir en sortir deux explications, deux illustrations qui seront, je l'espère, pour nous une source de bénédiction et aussi une marche à suivre pour nous dans notre travail, particulièrement dans ce temps unique que nous vivons avec la COVID-19 et la période de confinement. Alors, le mot dire, celui qui dit, le mot dire en hébreu, c'est le terme amar, apostrophe A-M-A-R. Je répète, apostrophe A-M-A-R. Pour tous ceux qui parlent espagnol, ne vous méprenez pas, ça ne veut pas dire aimer. Le premier sens qu'on peut donner à ce terme amar, dire, c'est le terme exprimer, commander, mais avec un sens particulier qui va au-delà tout simplement de proclamer une chose ou de dire une chose, mais on parle ici de l'illustration qui est de parler au cœur de quelqu'un. Alors notre prière pour aujourd'hui, alors que nous avons ce défi d'être des porteurs d'oracles, des porteurs de la parole de Dieu, des porteurs de la bonne nouvelle de Dieu, que nous puissions prier aussi que notre message puisse pénétrer au plus profond des cœurs. Lorsque je prie, vous avez vu que l'habitude que j'ai de demander que cette parole qui s'apprête à être partagée puisse trouver une place dans un cœur qui a été préparé, qu'elle puisse s'enraciner profondément, croître et porter un fruit qui est agréable à Dieu jusque dans l'éternité. Et ici, c'est la prière qu'on devrait avoir à tous les jours, alors qu'on ne sait pas encore à qui on va parler, mais qu'on a ce désir d'exprimer la bonne nouvelle et la parole de Dieu à ceux qui nous entourent. Avoir cette prière que Dieu prépare nos interventions, que Dieu prépare nos interactions avec nos prochains, avec les gens qui nous entourent, que ce soit des membres de la famille, que ce soit des collègues, que ce soit des amis ou des connaissances, ou parfois même un quidam que l'on croise au détour d'une rue ou au détour d'un achat à l'épicerie, que Dieu puisse nous accorder d'avoir des paroles qui vont au plus profond du cœur des gens. Et pour ce faire, il faut que nos paroles soient guidées par Dieu, parce que lui est capable de voir ce que les êtres humains qui nous entourent ont besoin d'entendre et de recevoir. Alors qu'on ait cette prière, effectivement, de dire, Seigneur, on ne veut pas simplement appeler ou faire appel à l'intelligence de notre auditoire, on ne veut pas simplement faire appel à l'intellectuel ou aux facultés intellectuelles de ceux qui nous écoutent, mais on veut vraiment que la parole qu'on va partager, que le message qu'on va transmettre puisse aller résonner au plus profond du cœur de ceux à qui nous nous adresserons. De surcroît à ça, le terme amar veut aussi dire éclater, dans le sens j'éclate avec un cri, j'éclate avec une proclamation, comme si la chose était trop intense à l'intérieur de nous qu'on ne peut contenir. Mais c'est aussi éclater ou se mettre à proclamer une chose lorsque nous agissons avec courage. Et je comprends, pour nous tous, ça prend une certaine dose de courage, d'hardiesse pour parler de l'Évangile dans certains contextes qu'on peut rencontrer. Parfois, on a peur d'offenser, parfois, on a peur de déranger. Très souvent, on a peur d'être regardé un peu bizarrement. On a peur des conséquences que notre témoignage pourrait avoir sur notre propre personne, sur notre condition d'emploi, sur notre condition avec nos amis ou avec notre entourage. Et voilà pourquoi la prière qu'on doit aussi avoir aujourd'hui, c'est d'avoir ce courage d'exprimer ce qui doit être exprimé. Oser parler avec hardiesse et avec bravoure. Ici, on se rappelle, c'est dans un temps où Jérusalem a été déportée. Les principaux responsables de Jérusalem ont été déportés vers Babylone. Et là, Ésaïe va parler à ces gens et va leur annoncer des bonnes nouvelles. Et parfois, lorsqu'on est dans un temps de désolement, dans un temps de désolation, certains pensent qu'on est propice à recevoir le message de l'Évangile, mais d'autres personnes, elles, se sont fermées et vivent recluses sur elles-mêmes dans un sentiment anti-Dieu, anti-religion, anti-foi. Et dans un tel contexte, même si on sait que ces personnes ont besoin d'entendre parler de celui qui seul peut apporter joie, paix et consolation, ces personnes-là, on doit aussi prier que nous ayons le courage de les aborder, parce que leur période sombre est tellement intense que ça peut nous faire peur dans la propagation de l'Évangile. Et voilà pourquoi Paul va dire aux chrétiens d'insister en toute occasion, favorable ou non. Oui, il y a des périodes dans lesquelles on parle et on partage l'Évangile dans un terrain qui est déjà travaillé et dans un terrain qui nous est favorable, dans un contexte qui nous est profitable, mais à d'autres occasions, on est aussi amené à proclamer l'Évangile dans un contexte qui est moins facile, dans un contexte qui nous est moins favorable, et à ce moment-là, il nous faut avoir prié, d'avoir le courage d'être effectivement la sentinelle que Dieu nous appelle à être. Dans les livres prophétiques de l'Ancien Testament, notamment dans Ésaïe, on va parler du travail de la sentinelle. Et on va dire notamment que si la sentinelle voit le danger arriver, mais qu'elle n'avertit pas, qu'elle ne sonne pas la trompette pour avertir du danger, que si quelqu'un meurt parce que le danger est venu à frapper, ben le sang de cette personne est porté sur la tête de la sentinelle qui s'en voit redevable. Et notre rôle encore aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu est d'agir en tant que sentinelle. Nous savons qu'il y a une rencontre imminente avec l'éternité pour tous les humains, que ce soit parce que la maladie vient frapper, que ce soit par le contexte actuel de la coronavirus ou du coronavirus et de la COVID, que ce soit à travers tout simplement une personne qui est vieillissante, que ce soit tout simplement parce que lorsque je sors de la maison, il est possible que j'ai un accident et que par conséquent, je suis amené dans l'éternité. Alors on ne sait pas qui nous entoure, qui serait au bord de l'éternité aujourd'hui, et ils ont besoin d'entendre qu'il y a un danger à rentrer dans l'éternité sans avoir fait la paix avec Dieu. Alors voilà pourquoi régulièrement il nous faut prier non seulement que nos paroles effectivement puissent aller au plus profond du cœur de ceux qui nous écoutent, mais de surcroît à cela que nos paroles aussi soient guidées ou soient proclamées avec tout le courage, toute l'hardiesse et toute la bravoure qui se doivent. Il dit, celui qui dit à Sion, Sion ici c'est le terme hébreu, Tsiom, Tsiyom, je répète, Tsiyom. Et Sion, oui, c'est une montagne en Israël, c'est la montagne notamment où Moïse va monter rencontrer Dieu, c'est un endroit capital dans le culte à l'Éternel et dans les manifestations de Dieu auprès de son peuple. Mais de surcroît à cela, lorsque le terme Sion est utilisé dans les livres prophétiques, donc dans la fin du Nouveau Testament, dans la période de déportation, dans la période d'exil après la chute des rois d'Israël et de Juda, le mot Sion est souvent utilisé pour remplacer le terme Jérusalem. Terme Jérusalem voulait dire la ville de la paix, la ville où la paix est établie. Mais lorsque la déportation se passe, et on voit ce principe-là lorsqu'on relit les textes de Néhémie et d'Esdras, on se rend compte que la ville est en désolation. Et Sion, contrairement à Jérusalem, qui est un nom béni et glorieux, Sion veut dire un lieu qui a été desséché, un lieu désertique, un lieu de désolation. Et dans la fin du Nouveau Testament, lorsqu'on utilise le terme Sion, c'est justement pour parler de l'état de désolation, l'état de décrépitude que connaît à ce moment-là la ville de Jérusalem. Et à l'instar d'Ésaïe, à l'instar de Néhémie, d'Esdras, il nous faut être ému aussi par l'état de désolation dans lequel ou dans laquelle se trouve les gens qui nous entourent. Alors oui, aller parler à notre auditoire pour que ça rentre dans le cœur, mais très souvent, la chose qui nous manque à nous, chrétiens, lorsque nous parlons de Jésus, c'est toute l'affection, toute l'émotion et toute la compassion que nous sommes supposés avoir auprès ou envers ceux qui nous écoutent. Alors, aujourd'hui, que nous puissions prier effectivement que l'état de désolation spirituelle, l'état de désolation dans lequel vit notre auditoire, que cela puisse nous émouvoir, afin que lorsqu'on va parler de notre Dieu, lorsqu'on va parler de la restauration possible, avec Dieu, ben que nous soyons remplis de toute la compassion qui animait même Jésus. Jésus, lorsqu'il a accompli son sacrifice pour vous et pour moi, il l'a accompli avec une parfaite compassion, un parfait amour et un amour qui est incommensurable, qu'on ne peut limiter, qu'on ne peut mesurer. Et ce même amour devrait aussi nous habiter, même si nous sommes de faibles créatures, avec des limites, avec des manquements, avec des erreurs et des péchés. Mais celui qui vit en nous, et j'avais l'occasion de parler sur cette thématique hier soir, celui qui vit en nous, la Bible nous dit que Dieu est amour. Alors si Dieu habite en nous, lui qui est amour, son amour devrait aussi habiter en nous, cet amour qu'il a envers l'humanité pour laquelle il a envoyé son Fils unique afin de mourir pour sauver l'ensemble des hommes. Alors, savoir être ému, saisir aussi, comprendre l'état de désolation dans laquelle, l'état de désolation spirituelle, bien sûr, dans lequel les gens qui nous écoutent peuvent vivre. Être ému et savoir que les gens ont besoin de cette restauration de Dieu. Ici, Ésaïe parle à des gens spécifiques. Ésaïe parle essentiellement aux Juifs déportés vers Babylone, aux Juifs qui ont été saisis à Jérusalem et qui ont été déportés jusqu'à Babylone. Et il s'adresse aussi aux Juifs qui ont été laissés pour compte dans une ville dévastée, dans une ville détruite, et il leur dit, je vous annonce de bonnes nouvelles. Donc, et je vous annonce que même dans votre désolation, il peut y avoir restauration. Il parle ici à des Juifs qui ont besoin de voir la restauration de leur vie, la restauration de leur statut, la restauration de leur mode de vie, la restauration de la ville de leur roi, la ville de leur seigneur. Il dit, celui qui dit à Sion, et là c'est ouvrez les guillemets, ton Dieu règne. Ton Dieu, premièrement. Le terme Elohim, qui veut dire le juge, le dirigeant et le magistrat, le magistrat, le professeur, le propriétaire, le maître, celui qui est, celui qui existe. Nous devons rappeler à nos concitoyens que Dieu est une parfaite et exacte vérité. Notre Dieu existe. Ici, Ésaïe parlait à son peuple qui avait été déporté, qui avait été éloigné de Jérusalem, le centre spirituel du peuple juif, du peuple d'Israël, et il leur rappelle que leur Dieu est toujours ce Dieu qui existe, est toujours ce Dieu qui est réel, comme leurs pères et leurs ancêtres leur ont enseigné. Mais on nous parle ici de Elohim comme le juge, le dirigeant, le propriétaire, le possesseur, le maître. Le possesseur, le propriétaire, le maître. Le peuple est déporté. Le peuple a été amené, dans certains cas, comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ces trois, les trois compagnons de Daniel, ils ont été amenés dans un statut de semi-esclavage. Ils ont pris les princes et les hauts gradés de Jérusalem et les ont amenés jusqu'à Babylone et ont fait de ces gens-là des serviteurs du roi Nebuchadnezzar, du roi Assuérus, du roi Darius, de certaines sommités de l'époque, mais ils sont devenus des serviteurs de ces rois-là. Donc, on pourrait se dire que le droit de propriété sur ces personnes sont maintenant acquises entre les mains ou placées entre les mains de rois athées ou de rois païens, de rois étrangers. Mais ici, Ésaïe va rappeler ton Dieu en utilisant le terme Elohim, propriétaire, maître. Ça veut dire que ce Dieu-là a quand même la mainmise sur son peuple. Ou par conséquent, puisqu'ils ont été emportés en esclavage, ce Dieu-là procède au rachat de ses esclaves. Et c'est ce qui s'est passé dans notre vie en tant que croyants et en tant que chrétiens. La Bible nous dit que nous étions esclaves du péché. Ça veut donc dire que nous appartenions au péché. Nous n'appartenions plus à Dieu. Nous l'avons délaissé par nos péchés, par nos iniquités. Mais lui a fait une transaction pour avoir, pour réobtenir son droit sur nous, son droit d'intervention dans nos vies, son droit de regard sur nos vies. Et ce droit-là de rachat, hier je parlais que c'était un droit d'adoption que je mentionnais hier soir. Ici ce matin, je vais parler de droit de rachat sur la vie qui est la tienne et la mienne. Ça a été exécuté à travers la mort de Jésus à la croix. Cette mort-là a signé le rachat de tous ceux qui déclareraient que Jésus est leur Seigneur et leur Sauveur. Et ici, Ésaïe est en train de proclamer à Israël que leur Dieu procède au droit de rachat de chacun des citoyens d'Israël. Et nous qui sommes, la Bible nous dit, des citoyens de Jérusalem spirituelle ou d'Israël spirituel, nous avons aussi été rachetés. Donc on a un message de rachat, on a un message de restauration qui peut être annoncé. Je pense que de façon spécifique, on peut aussi cadrer ce message et cette parole avec ceux qui auraient marché pendant un certain temps dans les voies de Dieu et qui s'en seraient éloignés. Je crois que même au niveau de l'Église, avec la pandémie et avec tout ce que nous vivons de par la COVID-19, je crois que plusieurs chrétiens qui s'étaient éloignés de Dieu sont dans ce processus d'introspection, ce processus d'interrogation et dans ce processus où Dieu ramène ces gens vers la maison, où Dieu procède au rachat de ces gens. Donc les acheter de nouveau, les récupérer comme sa propriété, les récupérer comme membres de sa famille. Alors j'aimerais te dire, je ne sais pas où tu en es rendu avec ta foi, je ne sais pas où tu en es rendu dans ta marche avec Dieu, mais j'aimerais te dire que Jésus effectivement est mort à la croix. En dépit de ton péché, de tes manquements et de tes iniquités, Jésus est venu mourir à la croix par amour pour toi, sachant que la seule voie de salut pour toi, pour moi et pour tout homme était à travers ce sacrifice qui a été accompli maintenant il y a près de 2000 ans sur la croix à Golgotha. Et ce faisant, Dieu a récupéré les droits de propriété sur ma vie et sur ta vie. À nous de le reconnaître comme notre Seigneur, comme notre Sauveur et de l'avoir effectivement comme propriétaire et comme Dieu sur notre vie. Donc, rappelez le prix qui a été payé pour le rachat de ce peuple-là. Le peuple de Dieu a été racheté au prix de la mort de Jésus. Et régulièrement, on doit parler à ces gens qui ont marché pendant un certain temps dans les voies de Dieu et qui s'en sont éloignés. On doit leur rappeler la véracité et la réalité du prix que Dieu a payé pour le salut de leur vie. Et en espérant et en priant que cette parole de rachat et cette parole de restauration puissent effectivement rentrer profondément dans leur cœur et ramener à la surface ces mêmes émotions même qu'ils ont ressenties la première fois où ils ont compris qu'ils étaient pécheurs et qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Que cela puisse encore se passer aujourd'hui. Peut-être que si tu m'écoutes, tu es en train de te rappeler effectivement, selon mes paroles, comment tu t'es éloigné de Dieu et comment Dieu a fait pour te ramener vers la maison. Alors, je prie que tu ne restes pas éloigné. Je prie que tu ne restes pas au loin de Dieu, mais que tu saches te rapprocher de lui, un peu comme le fils prodigue qui rentre à la maison. Et je sais que notre Père céleste va t'accueillir comme le Père de ce fils prodigue. Lorsqu'il entend son retour, il court vers lui, il l'embrasse et il le restaure dans tous ses droits, dans tous ses titres et dans toute la noblesse d'être fils de Dieu. Et il dit, ton Dieu règne. Ici, le mot régner, le verbe régner, c'est le verbe malak. M-A-L-A-K. M-A-L-A-K. Et ici, on veut dire, malak veut dire qui est roi ou qui devient roi. En dépit des circonstances que nous rencontrons et en dépit de tout ce qui se passe sur la planète, Dieu reste Dieu. Dieu est encore Dieu. Dieu est encore la seule source de solution. Le vaccin, lorsqu'il viendra, c'est parce que Dieu aura effectivement donné la connaissance à un homme et une femme de savoir, à des scientifiques, de savoir trouver les choses. À nous d'être humbles et de prier effectivement que Dieu pourvoie cette connaissance et cette sagesse. Mais Dieu reste Dieu. Dieu est encore au contrôle aujourd'hui. Et j'aimerais rajouter un autre aspect à ce terme malak. C'est non seulement que Dieu est roi, que Dieu pourrait devenir roi, mais c'est aussi faire de quelqu'un un roi. Et je prie que tu fasses de Dieu, qui est déjà le roi des rois, mais que tu fasses vraiment de Dieu ton roi. Que tu fasses vraiment de Dieu le maître absolu de ta vie. Je ne sais pas combien de temps il te reste à vivre, je ne sais pas combien de temps. Il y a 5 ans, j'ai été déclaré malade d'un cancer de stade 4, avec un cancer de l'œsophage de stade 4. La grâce de Dieu a fait qu'aujourd'hui, je suis vivant. Mais une des choses qui est restée après tous ces mois de chimiothérapie, à travers une opération, une chirurgie des plus invasives qui a duré 16 heures, après tout le temps de récupération, une chose m'est restée importante de toute cette période de maladie. Je sais que la vie peut s'arrêter en un instant. Je sais qu'aujourd'hui pourrait être ma dernière journée. Je sais qu'aujourd'hui je pourrais être amené à rencontrer Dieu. Je ne vis plus comme si j'avais 10, 15, 50 ans à vivre devant moi. Je vis en sachant que ce matin, je me suis réveillé et que ce soir, je pourrais me coucher et ne pas me réveiller demain. L'instant présent est devenu important pour moi. Et je veux m'assurer que dans les circonstances que je vis aujourd'hui, que Dieu soit effectivement mon roi. Donc moi, je ne sais pas quel est l'avenir qu'il y a devant toi. Est-ce que tu as quelques heures? Est-ce que tu as quelques jours? Est-ce que tu as quelques semaines? Est-ce que tu as quelques mois ou quelques années ou plusieurs années? Mais le rendez-vous avec Dieu est déjà marqué. Tu auras effectivement à un moment donné un face-à-face avec Dieu et la seule chose qui sauve, c'est qu'effectivement Dieu soit Dieu et Dieu soit roi dans ta vie. Alors je prie qu'aujourd'hui tu le fasses roi de ta vie. Je prie qu'aujourd'hui tu puisses avoir cette sage considération de faire de Jésus le roi de ton existence, de le proclamer effectivement comme le roi sur ta vie, avec les droits, les devoirs et avec toute la grâce et tout l'honneur qui lui revient à titre de roi. C'est ce que je fais quotidiennement. Je me rappelle quotidiennement qu'il est mon roi et je lui confie ma vie et mon existence pour le temps que j'ai devant moi. Serait-ce quelques heures, serait-ce quelques mois, serait-ce quelques années, lui seul le sait, mais je veux m'assurer que si mon rendez-vous avec l'éternité était aujourd'hui, je sois assuré que mon roi soit effectivement roi sur ma vie. Alors je vais prier pour vous, je vais prier pour moi. Si ce matin tu n'as jamais fait de Jésus ton roi et tu veux effectivement proclamer que tu comprends qu'il t'a racheté à travers sa mort à la croix et que tu veux vraiment qu'il occupe cette position de roi sur ta vie, je vais simplement te demander, avec de faibles mots, simplement répète ces paroles que je vais faire. Je vais faire une courte prière. Je vais m'arrêter, je vais faire des pauses pour que toi, tu puisses répéter ces mêmes mots avec moi si effectivement tu veux faire de Jésus le roi sur ta vie. Alors, on va y aller ainsi. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je sais que j'ai péché et que à cause de ce péché, je devrais être condamné pour l'éternité. Mais je sais que tu as envoyé ton Fils pour mourir à la croix, notamment pour moi, en vue de mon salut et du rachat de mon âme. Aujourd'hui, je te demande, purifie-moi, sanctifie-moi, fais de ma vie une vie nouvelle. Aujourd'hui, officiellement, je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Et je veux que tu sois le roi sur toute ma vie. Je ne sais pas combien de temps j'ai devant moi. Toi seul connais le nombre de jours qu'il me reste. Je te prie, règne sur ma vie. Je fais de toi mon Seigneur, mon Sauveur, mon Roi. Peu importe le nombre de jours, peu importe les mois ou les années que j'ai encore devant moi, ma vie à partir de cet instant, t'appartient. Fais de moi ce que tu voudras. Et merci pour le salut que tu m'accordes. J'ai prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors Dieu est témoin de la prière que tu as faite ce matin. Et la Bible nous dit que dans le ciel, il y a une grande joie pour un pécheur qui s'est repenti. Et je n'ai aucun doute qu'effectivement le roi est entré dans ta vie et que le roi te guidera et te mènera à bon port. Alors pour nous tous, aujourd'hui, sachons proclamer à nos proches, à ceux qui nous entourent, à ceux qui croisent notre route, qu'en dépit de la désolation de l'état actuel de notre société et de la vie spirituelle des uns et des autres, notre Dieu règne encore. Il rachète encore aujourd'hui. Il sauve encore aujourd'hui. Il donne une destinée et une destination pour l'éternité. Alors je vous souhaite une bonne journée dans la présence de Dieu. Permettez-moi simplement de saluer quelques personnes qui se sont jointes à nous depuis le début de notre méditation que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Bonjour à la sœur Letty, à José Luis, s'il est avec vous. Bonjour à Yvelin, Dieu te bénisse. Bonjour Marjo, Dieu te bénisse. Bonjour à Jonathan. Et assurément, ma belle-mère qui doit être à ses côtés. Que Dieu vous bénisse tous deux, toutes deux. Bonjour à Gloria. C'est une autre Gloria. C'est la sœur Heidi. Dieu vous bénisse, ma sœur. Bonjour à Jane. Bonjour Louise. Bonjour Michel. Dieu vous bénisse. Bonjour Isaac. Le bonjour à toute ta famille de ma part. Bonjour Natacha. Bonjour Indirène. Soyez bénis. Bonjour Chantal, Léo, Dieu vous bénisse. Marta Lucia, Dieu la bendiga. Maria Neiva, Dieu la bendiga. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Non, je crois que c'était tout pour ceux qui se sont joints à nous. Alors, merci encore d'avoir été là ce matin. On a rendez-vous demain matin. Je parlerai un peu plus de comment ce verset dans Ésaïe 52 a été un moment charnière dans toute ma péripétie d'il y a quelques années et comment Dieu l'a utilisé pour me guider et pour orienter ma vie à ce moment-là. Donc, soyons là demain matin. Il n'y aura pas d'étude biblique, ce sera simplement un temps de témoignage à la lumière de ce verset-là. Et on se retrouve aussi, bien sûr, demain soir pour notre temps de prière et puis d'intercession. Donc, je vous souhaite une bonne journée avec Jésus comme roi dans votre vie et avec le salut que vous propagez autour de vous. Alors que Dieu vous bénisse et bonne journée à tous. À demain.